A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Éternel espoir du cinéma, il a une caméra dans la tête, même quand il va se chercher son paquet de clopes. Riton Liebman vit dans un film 24 heures sur 24. Après avoir été révélé à l'âge de 13 ans dans « Préparez vos mouchoirs » de Bertrand Blier, le petit Riton veut retourner illico dans le chaudron magique du cinéma. C'est ce qu'il nous raconte dans « La vedette du quartier » qu'il présente du 23 au 28 janvier au Métallo à Paris. Bertrand Blier, Yves Boisset, Jean-Jacques Benex, Patrice Lecomte font partie de la longue filmographie de ce comédien belge installé à Paname. Mais c'est pas ça qui l'intéresse, non. Ce qui intéresse Riton, c'est Riton lui-même, ou comment être le fils d'un renégat. Liebman renégat, mon père juif et pro-palestinien, et cette facette de lui-même qu'il nous présentait au moment de cet entretien, rediffusion en sol majeur. Bonjour Riton Liebman.
Bonjour, bonjour.
C'est quoi votre métier?
Buveur de café. De temps en temps, je raconte tout ça avec un stylo, puis... Non, mon métier c'est un peu tout, c'est vrai que c'est pas mal raconté, c'est observer ce qui arrive, les détails de la vie, puis les intégrer dans des histoires, en essayant qu'elles soient un petit peu universelles quand même, rattacher ça à une ville, un endroit, une actualité.
Glandeur professionnelle.
Bah, glandeur non, parce que oui, glandeur c'est sûr, mais pour bien raconter une histoire de glandeur, il faut beaucoup travailler.
Alors comment on ne sait pas si vous jouez ou à quoi vous jouez, Riton Liebman, première question en sol majeur.
حين كنت طفلة بماذا كنت تلعبين؟
Quand vous étiez enfant, c'était quoi vos jeux?
Alors, mon premier jouet, ça a été un revolver à doigts. Parce que comme mes parents ne voulaient pas m'acheter de vrai revolver, je m'étais construit un revolver à doigts. Voilà, c'était... Puis il y a eu les vignettes Panini de mon album où j'étais supporter du Standard. Puis il y a eu quoi comme
équipe
puis,
de foot, hein,
équipe de foot, précise, bah, le Standard, comme le Standard de Liège, tout le monde connaît. Et puis il y a eu un autre jeu. Je m'imaginais en sortant de l'école, j'étais persuadé que les filles, qu'elles avaient une caméra et que entre elles me regardaient marcher dans la rue.
Mais vous en êtes toujours persuadé, Riton. Ah, oui, je vous ai vu. Est-ce que vous rêviez d'être un héros? Dans ce Bruxelles.
Bah, un héros, oui, un guitariste, un footballeur.
Parce que héros, vous me disiez, c'est pas tellement dans l'inconscient collectif bruxellois.
Ouais, c'est-à-dire qu'après, c'est vrai que le vrai héros bruxellois, il faut qu'il soit un petit peu loser. On n'aime pas tellement ce qui brille et ce qui marche. Il faut que le mec, il soit un petit peu le héros maudit, qu'il en ait rien à foutre du succès. Il faut que ça lui vienne tout cru dans la bouche, mais faut pas bosser pour, quoi. C'est très mal vu.
Alors en tout cas, le destin toque à votre porte, on va dire en 77, Riton Liebman, où vous répondez, enfin c'est plus compliqué que ça, favorablement à une petite annonce du réalisateur.
C'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que...
Blier Bertrand de son petit nom.
Voilà, donc Blier, metteur en scène français, prépare un film, Préparez vos mouchoirs, avec deux jeunes acteurs, Devers et Depardieu. Et comme c'est une coproduction franco-belge, ils viennent à Bruxelles pour chercher le petit garçon.
Le petit belge.
Le petit belge. Et ma mère, donc il passe une annonce dans le journal, et ma mère, elle trouve l'annonce dans le journal, et elle se dit, oh là là, si jamais Riton trouve cette annonce, il faut surtout pas qu'il y aille, c'est très mauvais pour lui. Et elle fourre l'annonce dans la poubelle, et en sortant de l'école, en allant au café... ma petite sœur me montre l'annonce qu'un copain à elle lui a filée en lui disant « Faut que ton frère se présente, ça ne peut être que lui ».
Ça s'appelle du destin.
Oui, c'est le destin. Mmh.
Alors, c'est une aventure incroyable, hein, parce qu'à 13 ans, vous vous retrouvez en face de, on ne le sait pas encore, mais c'est quand même deux, trois monstres du cinéma. Mmh. Gérard Depardieu, Patrick Devers et Carole Laure. Une parenthèse, est-ce que vous saviez qui était Bertrand Blier?
Non, pas du tout.
Oh, un phallocrate, quoi.
Ma mère savait que c'était un phallocrate, un misogyne de la pire espèce, vu qu'ils avaient vu Les Valseuses. Et justement, dans ma famille d'intello bruxellois, où à l'époque, je veux dire, le féminisme était une chose très importante, qui faisait partie en même temps que la lutte des classes, la révolution, Les Valseuses, dans ma famille, n'était pas tellement considéré comme un film sulfureux, mais surtout... misogyne.
Histoire d'un gamin, préparez vos mouchoirs surdoués. Enfin, je donne votre partition à vous, hein, qui reçoit 250 petits Suisses sur la figure de la part de ses bons petits camarades de colo, car qui dit surdoué, évidemment, dit bouc émissaire. Et ce petit bonhomme surdoué donne la réplique à Stéphane, Patrick Devers, et Raoul, Gérard Depardieu, clap moteur.
Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce qu'il vient foutre avec son coefficient dans cette putain de colonie de vacances.
Ça, faut poser la question à mes parents.
C'est qui, tes parents?
De cons.
Bon, bah d'accord, c'est fréquent. Mais quel genre de cons?
De cons tout court, de cons ordinaires. Surtout mon père. Ma mère, à la rigueur, je veux bien passer l'éponge. De temps en temps, elle a un bon petit sourire. Puis elle joue encore un peu de piano. Pas trop mal, mais malheureusement, ses doigts se rouillent. Elle travaille pas assez ses arpèges. Quant à mon père, debout 6 heures. 7 heures, il monte dans sa DS. Parce qu'il paraît qu'un patron doit arriver avant ses ouvriers et repartir après ses ouvriers, pour donner le bon exemple. Ça fait qu'il est de retour à la maison vers 7 heures du soir. Il enlève sa cravate. Télé. Sa chaîne haute fidélité qui ressemble à un tableau de bord de Boeing. Il n'est même pas fichu de s'en servir. Ça doit être moi qui lui explique. Et de toute façon, il n'aime que Wagner. Moi, Wagner, ça m'emmerde. Je préfère Schubert.
Bon, alors vous êtes un glandeur, mais un glandeur qui bosse, mais Riton, oui, Liman, puisque... Ça fait quoi, 30 ans après, vous connaissez encore le texte par cœur de Préparer vos mouchoirs?
Bah parce que c'était bien écrit, c'est du boulot, on sent que Blier, il a bossé, quoi. On sent que le dialogue, c'est ciselé, c'est... Et puis derrière, il y a Mozart, et puis...
En face, il y a Depardieu.
En face, il y a Depardieu et Devers, c'est pas n'importe quoi. C'est un bel objet, quoi. Le film, c'est magnifique.
Est-ce que c'est pas une légende de dire que, effectivement, en face d'un Depardieu, on joue forcément bien?
Ouais, c'est vrai. Je veux dire, c'était n'importe quoi, Depardieu, sur le film, il était... il parlait que de cul, bite, cul, poil, trou. Ma mère était très étonnée d'ailleurs, parce que comme j'étais jeune, mes parents étaient obligés de m'accompagner sur le tournage, donc ils s'attendaient à rencontrer deux monstres du cinéma, des interprètes extraordinaires, puis ils parlaient que de cul avec Devers. Mais par contre, c'est vrai que Devers et Depardieu... Quand on jouait la scène, là, ils trichaient pas, quoi. C'est-à-dire qu'ils jouaient vraiment les yeux dans les yeux. Ils étaient vraiment généreux.
Je rêve ou vous avez perdu votre accent belge depuis?
Bah, si vous voulez, je peux le prendre, hein, y a pas de problème. Et... Non, mais oui, ça fait quand même.
La gomme est passée par là, quand même.
La gomme?
La gomme pour,
ouais,
pour gommer.
La gomme, la Paris. C'est un peu pour ça que je suis venu, hein, parce que quand j'en pouvais plus de l'école, parce qu'en fait, le spectacle s'appelle La petite vedette du quartier, parce que moi, ce qui m'a bien sûr marqué le plus, c'est la réalité. C'est-à-dire que quand le film est sorti, que je suis devenu la petite vedette du quartier à Bruxelles, et que je suis retourné à l'école, et que tous les élèves se foutaient de ma gueule parce que j'étais la star du quartier. C'est ça qui m'a marqué. Et donc, j'allais de moins en moins à l'école, et à un moment, j'ai rappelé Bertrand Blier, avec qui j'étais rester en contact, parce que ma vraie histoire sur le film, c'est pas Carole Laure, c'était avec Bertrand Blier, le metteur en scène, et je lui ai dit: Bertrand, je veux être vraiment acteur, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit: bah, si tu veux être acteur, mon petit bonhomme, faut venir à Paris pour perdre ton accent. Hein?
Est-ce que vous diriez que ce film, Préparez vos mouchoirs, a été à la fois une très grande chance et un très grand traumatisme?
Exactement. Chance, parce que je ne regrette rien, parce que c'est génial, parce qu'aujourd'hui, je peux faire ce que je veux, j'écris des histoires.
Ce que je veux, ça veut dire, c'est n'importe quoi?
Bah, je suis supporter du Standard, mon film. Non, ce que je veux, je suis dans le métier.
Ça vous a rendu légitime?
Bah, j'ai mis le temps, hein, parce que avant de faire autre chose que le petit garçon de Préparer vos mouchoirs, il a fallu du temps. Et si je serai toujours le petit garçon de Préparer vos mouchoirs, quelque part.
C'est le trauma, ça?
Bah, c'est un bon trauma, hein, mais ça va encore.
A comme autodidacte.
Est-ce que vous revendiquez le fait d'être un autodidacte?
Autodidacte qui a besoin des autres.
C'est pas contradictoire, hein?
C'est pas contradictoire?
Non, je pense pas.
Ouais, je pense que tu crées rien tout seul.
Vous avez joué dans plein de films, mais en fait, ce que je comprends, c'est que vous préférez dire vos propres mots. C'est ce qui se passe dans La Vedette du quartier, où vous racontez donc vos premiers pas dans le 7e art. Ça commence avec donc le film de Blier, où vous racontez le tournage. Et puis, la fameuse scène que vous redoutez quand même avec Carole Laure.
Mmh.
Carole Laure a 30 ans,
mmh.
vous en avez 13,
mmh.
et vous vous retrouvez tous les deux dans un lit. Pas simple, non?
Mais c'est vrai que dans l'imaginaire de tous les gens qui ont vu ce film, c'est « Ah, la scène du lit, Carole Laure, putain, mon beau salaud, oh, c'est dingue, j'aurais tellement voulu être, c'est dingue ». Mais moi, c'est pas ça que j'ai vécu. J'ai vécu un lit, des projecteurs, une équipe, et d'ailleurs sur le film, j'étais même pas du tout amoureux de Carole Laure, j'étais amoureux d'une petite figurante qui n'avait rien à voir avec le film.
Oui, mais donc, enfin c'était sous moi, la chemise ça, de Carole Laure qu'il fallait aller voir ce qui
oui,
se passe.
Oui, mais c'était rien, pour moi c'était rien. Enfin, ou alors c'était tellement important que je ne voulais pas me l'avouer, si ça se trouve, mais j'ai l'impression que c'était beaucoup plus concret que ça, quoi. C'était en place, attends, la lumière est pas prête, vas-y, tu fais trois pas, j'ai pas le souvenir d'avoir été traumatisé par cette histoire-là. Et puis ce qui a été dur, c'est que je sortais d'un rôle extraordinaire, d'un film extraordinaire.
Une partition exceptionnelle. Hein.
Et après, quand je suis devenu acteur, bon ben voilà, je n'étais plus la star du film, j'étais un second rôle ou un troisième rôle, comme les autres du cinéma français. Et c'est ça que je raconte un petit peu par la suite, c'est que ok, j'avais du boulot, ok, je tournais dans des films, j'avais une vie d'acteur normale, mais j'étais plus le gars de préparer vos mouchoirs.
Alors, dans La Vedette du quartier, vous racontez comment vous rejoignez Paris, un matelas, une valise et le petit bureau que trimballe votre père dans sa voiture. Il vous donne votre chance, hein, votre père.
Ouais,
hein,
ouais,
quand même.
Parce que mon père, il était fou de, j'allais dire, fou de moi. Et il croyait en moi, quoi. C'est dingue. Il était le fil, le regard tendu qui me portait, quoi. Il avait confiance.
Et donc vous montez à Paris parce que Paris c'est quand même autre chose que Bruxelles. Et là, Bertrand Blier, parce que vous avez évidemment ses coordonnées, il vous a pas complètement zappé et même qu'il vous présente son père.
Ouais, tout à fait. Quand j'arrive chez le père Blier à la porte de au pont de Neuilly, je vois tout de suite que je suis dans un autre quartier. Ici c'est pas la porte de Vincennes. Ici, c'est magnifique. Ici, les trottoirs sont larges. Ici, pour passer du numéro 50 au numéro 52, faut marcher une demi-heure au moins. Alors, bonhomme, comment ça va? Tu sais que t'étais formidable dans le film de Bertrand? Merci, monsieur. Et puis, sa femme nous apporte des gâteaux. Des Paris-Brest, ça s'appelle. J'ai jamais mangé des gâteaux aussi bons. Et tu veux être acteur, c'est ça? Oui, monsieur. Faut que je fasse le conservatoire, alors. T'as quel âge? 15 ans, monsieur. T'as déjà fait du théâtre? Bof, pas vraiment. Mais bon, c'est pas grave, j'ai envie de bosser. Et ton nom? C'est Riton, c'est ça? Oui, monsieur, normalement, je m'appelle Henri à cause de mon oncle qui est mort déporté. Mais j'aime pas qu'on m'appelle comme ça. Moi, mon vrai prénom, c'est Riton. Peut-être, mon petit bonhomme. Mais Riton, c'est pas un nom, ça. Riton, ça allait pour le film de Bertrand. Mais si tu veux être acteur, faut changer. Une carrière d'acteur, c'est long. Comment on va t'appeler quand t'auras 50 ans? Bah, je sais pas, monsieur. Bah, pas Riton, en tout cas. 50 ans, t'imagines? Non, mais Henri, c'est très bien. Et ton nom de famille, c'est quoi? Liebmann, monsieur. Liebmann? Non, mon petit bonhomme, ça va pas du tout. Bah non, Liebmann, c'est trop... Enfin, c'est pas assez... Et là, le père Blier, il me dit... Et pourquoi tu t'appellerais pas Henri Brabant ou Henri Limbourg, puisque tu es belge, justement? Henri Limbourg? Il est complètement con, le père Blier, ou quoi? Tout à coup, j'ai envie de foutre mon Paris-Brest par la fenêtre. Mais je dis rien. Comme quand t'es chez le coiffeur et que t'oses rien dire. Tu sais, quand t'es pas content, mais tu dis rien. En tout cas, il est hors de question qu'on m'appelle Henri Brabant ou Henri Limbourg. Moi, mon vrai prénom, c'est Riton.
Bon, bah, il était pas visionnaire, le père Blier, comme vous dites.
Le père, c'est pas Bertrand, hein, c'est ouais. Bernard Blier. Il m'avait, justement, Bertrand, il m'avait, comme il avait beaucoup de travail et qu'il pouvait pas vraiment s'occuper de moi, il m'avait envoyé chez son père, Bernard Blier, et qui m'avait reçu dans son appartement.
Et en fait, il vous dirige vers le Cons.
Le Cons, ouais. Il me dirige, comme lui non plus, il n'avait pas le temps de s'occuper de moi. Il me dirige vers un copain, lui, un acteur comme les autres, pas une star, Teddy Billis, qui faisait du doublage. Et justement, et là, j'arrive chez Teddy Billis, un petit acteur qui habite dans un petit petit appartement et ce petit prof me conseille d'apprendre une fable de La Fontaine pour passer le conservatoire. Et là, je comprends pas. Je me dis, mais c'est pas en apprenant une fable de La Fontaine que tu deviens acteur. T'imagines Depardieu ou Devers en train de dire, bah non, il est complètement con. Et du coup, je ne fous rien, évidemment. Je passe de café en café et je rate le conservatoire.
Mais vous vous en remettez assez vite, puisque sur votre chemin, il y a Yves Boisset avec oui. Allons Enfants.
Ouais, mais un petit rôle.
Tout petit.
Tout petit. Tout petit. Comme tous ceux qui vont suivre.
Et là, il y a des remarques dans votre monologue qui font sourire. Vous dites, c'est ça être acteur? C'est ça faire du ciné?
Bah ouais, c'est ça.
Parce que dans votre tête, faire du cinéma, c'est comme vous l'écrivez à un moment donné, de mémoire. Hein, c'est discuter avec Blier et écouter du Pink Floyd avec Depardieu dans la bagnole.
Exactement.
On a l'image.
C'était discuter, c'est de leur rêve, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai tout de suite voulu être acteur pour avoir une autre vie. Mais encore une fois, dès qu'il fallait bosser, apprendre un texte, se fondre dans un collectif, écouter un professeur, attendre mon tour, fermer ma gueule en quelque sorte, eh ben, je m'arrangeais pour me faire virer. Et il y avait toujours un autre film, un casting qui me rattrapait et qui me permettait de me raccrocher aux branches. Jusqu'au jour, plus tard, où je me suis dit, non, si tu veux raconter tes histoires, il faut travailler.
Quel objet vous en faites sur scène, Riton Liebmann, de la vedette du quartier?
Bah ça, il faut venir le voir.
Bah, vous êtes gentil, vous.
Il faut venir le
voir.
C'est
ça qu'on aime d'ailleurs chez vous, c'est que vous êtes gentil.
Moi, je suis gentil? Ah non. L'objet, quel objet j'en fais? Putain, c'est difficile à dire.
Quand vous dites les accessoires, les lumières, donnez-nous une image de vous sur scène.
Bah, il y a un pyjama, le petit pyjama bleu du petit gars de préparer vos mouchoirs, il y a son lit, il y a le bureau de son père, justement, il y a la valise avec laquelle il est venu, et puis il n'y a pas grand-chose, parce qu'il y a tous les rêves qu'il a dans la tête, tous les gens qu'il a rencontrés, et au pied, des pantoufles, parce qu'on ne sait pas exactement si on est dans sa chambre, dans un hôpital psychiatrique, où ce vieux-là nous raconte ses anecdotes et ses souvenirs.
Est-ce qu'on est au théâtre ou on est dans un one-man show?
On est au théâtre. On est au théâtre parce que c'est une histoire. Parce qu'il n'y a pas de sketch, parce qu'il n'y a pas de punchline. Bien sûr, j'aime bien qu'on rigole, mais en même temps, je suis là pour raconter une histoire, pour essayer, encore une fois, de sortir autant que faire se peut du trip égocentré, même si ça allait complètement, et voilà, pour le rendre un peu universel, parce que finalement, c'est l'histoire d'un petit gamin qui rêve, quoi.
D'être regardé par les filles qui ont une caméra dans la tête.
Voilà, exactement.
Riton Liebmann, est-ce que vous avez déjà chanté dans votre vie du Billy Preston?
Ah oui.
Ah bon?
Il y a une chanson de Billy Preston que j'adore, qui me met de bonne humeur, ouais. Nothing for Nothing, je suppose que c'est ça qu'on va écouter maintenant.
Oui, parce que vous êtes le chef de l'émission en sol majeur. Bon, on vous écoute alors.
Ah, c'est moi qui dois la chanter, non?
On met Billy, mais il y a Riton dans le coin.
D'accord.
Toujours corps et âme, Billy Preston en sol majeur avec notre invité, le comédien et auteur Riton Liebmann, qui revient tuer le père dans 3 minutes.
From
en sol majeur.
En sol majeur.
Riton Liebman a commencé sa carrière d'acteur à 13 ans en donnant la réplique à Gérard Depardieu. 40 ans et une belle filmographie plus tard, ce comédien belge a perdu son accent et gagné ses galons de comédien, et sur le grand écran et sur le petit écran. Mais il se trouve que Riton Liebman est cloué aux planches en ce moment avec la vedette du quartier qu'il joue au Métallo à Paris. Retour sur Liebman Renégat, mon père juif et pro-palestinien, qu'il jouait au moment de cet entretien. Rediffusion suite. Alors sur la scène de ce spectacle, Liebman Renégat, vous avez installé une chaîne IFI,
ouais.
Celle de vos parents,
ouais.
Avec leur discothèque. Pas mal comme discothèque. Hein.
Ouais, Mozart, Beethoven, Haydn, Brahms. De temps en temps, à côté, les disques de mes grandes sœurs qui écoutent. J'ai deux grandes sœurs qui écoutent des musiques, qui écoutent déjà le Maxime Le Forestier, les Beatles, des trucs comme ça. Et moi, je sens tout de suite que c'est pas pour moi. Il me faut des trucs rock'n'roll.
Les Beatles, non ?
Je préférais. Tout de suite, j'ai su que c'était les Rolling Stones. C'était plus.
Ou Jimi Hendrix.
Jimi Hendrix.
Et là, c'est pareil que la drague avec les filles, vous avez la caméra là qui
ah
vous
oui,
regarde.
J'ai la caméra, ouais.
Mais là, vous avez la guitare.
J'ai
vous
la guitare,
tous
je
les instruments.
Tous les instruments, tous les instruments. Pendant le solo de guitare, je suis le guitariste, sinon je suis le batteur. Et quand il faut chanter, je suis le chanteur. Du moment que les filles me regardent avec leur caméra. Mais ça, c'est plus étonnant. J'y passe des heures entières, seul dans ma chambre, à me balancer d'avant en arrière.
Il fallait que je vous en parle. Vous avez consulté ou pas?
Ça sert à rien parce que j'aime bien ça finalement. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. No.
Éternel Jimi Hendrix, éternellement troublant, ce All Along the Watchtower qui fait partie de la bande-son de notre invité, le comédien belge Riton Liebman. Je vous résume les épisodes du feuilleton. Vous vous balanciez quand vous étiez tout petit, Riton. Vous vous balancez toujours en écrivant. Je me demande bien pourquoi.
Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être comme un rabbin qui prie devant le mur des lamentations. Je ne sais pas.
On va laisser trois petits points.
Oui, on va laisser trois petits points. Au moins trois.
Au moins trois. Riton Liebman, ça tombe tellement bien. Merci pour la transition. Auteur qui règle ses comptes avec son père dans son spectacle Liebman Renégat, mon père juif et pro-palestinien. Alors écoutez bien, à 13 minutes 40 du spectacle, voilà ce que ça donne.
Arrête de répéter bêtement ce que dit ton père. On l'a encore vu hier à la télé. Ma mère dit que c'était un traître, un hérétique, un renégat à la solde des Arabes qui sont pleins de pognon. Il aurait mieux fait de mourir à Auschwitz comme la moitié de la famille de mes parents. Et je restais seul, sous le préau, comme un con. Mais au fait, comment en étions-nous arrivés à cette situation? comment mon père réussit à se faire détester à ce point par sa propre communauté. Parce que pas mal de juifs de Belgique voulaient vraiment la mort de mon père. D'ailleurs, la maison était parfois gardée par des flics qui stationnaient devant la porte pour nous protéger. Des gendarmes pour protéger la maison d'un homme qui avait appris à chanter « Abba l'état policier » à ses propres enfants. Et je me souviens être passé plusieurs fois devant les flics en les saluant avec des disques de Deep Purple que je venais de piquer à l'innovation.
P comme papa.
Alors cet incroyable papa s'appelle dans la vie Marcel Liebman. Et c'est une énorme figure intellectuelle très connue en Belgique, Riton.
Oui. Oui.
Alors ?
Bah non, mais déjà, ce qui est dingue, c'est que ça ne passe pas. Ce qui est connu en Belgique ne passe pas la frontière, quoi. C'est-à-dire que personne ne sait à Paris qui était Marcel Liebman, mais en Belgique, c'est vrai que c'est une figure intellectuelle, libre. Et très à gauche,
ouais.
Mais sans être stalinien ou un mec de gauche intelligent, quoi.
C'est-à-dire que grâce ou à cause de lui, mais plutôt grâce à lui, je dirais, quand vous étiez tout petit, le monde se divisait en deux, c'est-à-dire les gens qui étaient à droite et les gens qui étaient à gauche.
Pire que ça, les gens qui étaient apolitiques. Parce que mon père considérait qu'on pouvait être de droite, mais le pire, c'était apolitique. Non, c'était un monde très politisé dans ces années-là. C'était de la mode de militer.
Pourquoi vous avez eu envie de vous, là aussi, de braquer les projecteurs, votre caméra intérieure, Riton Liebman, sur ce père ?
Ça s'est fait comme ça, un petit peu par hasard. C'est un jour un mec dans un théâtre, Roland Maoden, un directeur de théâtre au Théâtre de Poche à Bruxelles, qui voulait monter des spectacles hérético-urbains. Il voulait parler de l'hérétisme. Et comme il savait que j'écrivais, il m'a dit « Écris-moi un texte sur l'hérétisme ». Et je sentais bien qu'il voulait parler du voile, etc. Mais j'avais rien à dire d'intéressant là-dessus. Et puis tout à coup, j'ai pensé « Mais si, l'hérétisme, je vais parler à mon père, qui était juif, mais un des premiers à l'époque à dire qu'il fallait discuter avec les Palestiniens et surtout avec l'OLP ». Et à l'époque, c'est vrai que c'était un crime, quoi, de dire ça.
Ce qui, à l'époque, était... Et ce qui est toujours ?
Je pense, oui. Enfin, d'ailleurs, moi, contrairement à mon père, je ne veux plus me disputer avec mes amis. Hein. Mais moi, j'ai dit, c'est ça qui est dingue dans cette histoire, c'est que j'ai dit, il y a pas mal de gens que j'aime profondément et qui pensent exactement le contraire et qui sont révoltés pour la même chose que moi, mais dans le sens opposé. C'est-à-dire que persuadé que le monde est anti-israélien...
Antisémite, vous pouvez le dire.
Non, je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là, justement, parce que je préfère être très prudent. Et voilà, aujourd'hui, Israël existe, j'ai mes opinions politiques, je laisse aux gens le soin de prendre le spectacle comme ils le ressentent. Et antisémitisme, il y a de l'antisémitisme dans le monde, il y en a toujours eu, mais il y a du racisme dans le monde aussi, quoi...
C'est déjà une réponse. Alors, le spectacle dresse une statue à votre père tout en marquant votre propre territoire, non ?
Oui. Déjà, ce qui est génial, c'est que mon père n'est pas né de gauche pro-palestinien.
Oui, mais
au
justement,
contraire.
Ça, c'est toute l'histoire. Mais avant d'y venir, ce que je voulais souligner, c'est la tonalité de votre spectacle. C'est un spectacle sensible et drôle.
Mm-hmm.
Liebman Renégat, extrait.
Et tous les soirs, mon père entre dans notre petite chambre, à ma petite sœur et à moi, et pour nous endormir, il nous raconte les aventures de la famille Liebman en Belgique occupée. Ça va l'air chouette. Avec mon père, la guerre ressemblait à un album de Tintin. Et c'est à ce moment-là qu'on change de trottoir en vitesse, car votre oncle Jean-Claude, qui était le plus petit, avait aperçu le gros Jacques, un juif comme nous, sauf que lui faisait des rondes pour donner des juifs aux Allemands. Et c'est à ce moment-là qu'un voisin frappe à la porte pour nous prévenir que les Allemands sont dans la rue et qu'il faut filer par les toits immédiatement. Et c'est à ce moment-là que le chauffeur de la maison communale décide de faire demi-tour, car le parcours est devenu trop dangereux. Il avait pourtant promis de nous conduire à la frontière française, où bon papa connaissait des gens qui pouvaient nous cacher, mais il y avait des bombardements sur la route et le chauffeur décide de rentrer. Et même que votre oncle Jean-Claude, qui était le plus petit, se met à pleurer car il avait vu une vieille femme sur le bord de la route qui avait perdu ses jambes et tous ses pieds.
C'est vrai que ça avait l'air chouette, la guerre racontée par votre père, Iton Liebmann. C'est tout droit sorti de votre imagination ou il avait un petit côté Roberto Benigni, votre père ?
Roberto Benigni, non, parce qu'il n'aurait jamais fait une farce avec cette histoire. Parce que justement, ce qui est passionnant dans l'histoire de mon père, c'est qu'il vient d'une famille pas du tout de gauche. Il vient au contraire d'une famille juive, mais bourgeoise, royaliste, de droite. Et donc mon grand-père paternel est persuadé que la reine, le roi, les autorités belges vont les protéger des nazis. Il rencontre le chef du parti rexiste, donc fasciste belge, pour lui expliquer que ses idées sont bonnes, mais que les juifs sont des gens bien et qu'il ne faut pas être antisémite. Et il est persuadé donc que les autorités belges vont le protéger, et en fait, pas du tout.
Donc famille de droite traumatisée par la Shoah et traumatisée par la perte de l'oncle.
Exactement.
Henri.
Henri, l'oncle Henri.
Mais la question qui vous travaille, Iton Liebmann, c'est comment votre père, ce bon juif, arrive à être pro-palestinien. Et la réponse, c'est la faute à votre mère, ou en tout cas à la famille de votre mère.
Oui.
Vers 20 juive, ans.
Juive, bien sûr, qui a aussi traversé la Shoah, la guerre cachée à Bruxelles, mais qui vient d'une famille juive de gauche, bundiste et passionniste, parce qu'à l'époque, on pouvait ne pas être sioniste. Et mon grand-père maternel, du côté de ma mère, ne voulait pas aller s'installer en Israël, parce qu'il ne voulait pas aller prendre la terre des Palestiniens. Mais il disait qu'Israël avait rendu les Juifs fous.
Est-ce qu'il vous plaît, ce grand-père ?
Je ne l'ai pas connu, mais d'après ma mère, c'était un mec...
Est-ce que sa pensée vous plaît ?
No comment. No comment.
Ah bon ? Vous bottez en touche à ce point-là ?
Oui, parce que je raconte des histoires. Et puis que, de toute façon, aujourd'hui, Israël existe. Alors c'est sûr que moi, je suis pour deux États. C'est sûr, mais Israël existe.
Mais en même temps... Ce spectacle, on peut le voir, c'est vrai que le mot revient souvent en ce qui vous concerne dans vos spectacles comme une thérapie de vous-même, mais c'est peut-être aussi une thérapie de groupe, parce que l'époque, on ne peut pas lui dire tout à cette époque, on ne peut pas dire aujourd'hui à Israël, écoute, t'exagères un petit peu là sur la question des colonies par exemple, on ne peut pas le dire aujourd'hui.
Si, on peut le dire. Alors, d'ailleurs, moi je suis très pro-israélien parce que Israël est quand même le pays où il y a le plus de juifs pro-palestiniens.
Ça vous l'avez...
Il y a une gauche en Israël.
C'est votre joker, ça.
Voilà, c'est mon joker. Il y a quand même pas mal de juifs. Il y a une gauche. Enfin, je n'en sais rien. Je raconte des histoires. Enfin, on ne va pas parler politique, mais...
Vous êtes déjà allé en Israël, vous ?
Non, jamais. Je préfère aller à la mer, nager dans... Mais j'irai un jour, dès que l'occasion se présente.
Ce spectacle, vous dites que vous racontez des histoires, mais cette histoire, elle arrive à un moment clé, on va dire, en France. Comment vous avez vécu, vous, le comédien belge installé ici à Paname, tout ce déballage sur l'identité nationale en France ?
C'est tellement vaste, moi ça m'horrifie personnellement, mais cette quête d'identité française, voire républicaine, me saoule. Nous en Belgique on s'en fout complètement, il n'y a aucun mérite à être quoi que ce soit, je n'ai rien fait pour être belge, je suis content de l'être, je n'ai rien fait pour être juif, je suis content de l'être, mais je veux dire, il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de revendication à avoir. Je trouve qu'on a le droit d'être patriotique pour trois choses: le football, le cyclisme et l'Eurovision. En dehors de ça, aucun intérêt.
Si on allait faire un petit tour du côté de... Parce qu'il n'y a pas que Shakira dans la vie, du côté de Marc Augeret.
C'est qui ?
Comment ça, c'est qui ? Vous nous l'avez programmé en sol majeur avec La Semaine Sanglante.
Ah non, mais justement, c'est très marrant. Je ne savais pas qui chantait cette chanson. C'était juste un chant qu'on chantait à la maison quand ma sœur prenait sa guitare et qu'on chantait tous ensemble.
Vous chantiez ça, vous ?
Oui, on chantait les chants de la commune de Paris. Oui.
Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes,
des veuves et des orphelins. Paris suinte, alors suinte, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Misère, Paris suinte la misère.
Même sont tremblants, l'âme des taux, conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais sabre dans le manche, les mauvais jours finiront égaux. quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de roi et d'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront.
N'ayez crainte, peuple du monde, ce n'est que la semaine sanglante et elle ne dure que 2 minutes, version Marc Augeret. Tout ça pour les beaux yeux de Riton Liman, acteur de sa propre vie.
J'aime pas.
La culture flamande.
J'aime pas. Non, mais il y a plein de films flamands que tout le monde adore. Le cinéma flamand, comme tout le monde adore, bah j'aime pas.
Ah d'accord, par principe.
Ouais, par principe, j'aime bien toujours me mettre en opposition.
Votez.
Moi, je ne vote pas parce que je suis belge et que comme je suis à Paris, je n'ai jamais pu voter. Mais je voterais si j'étais français, si j'avais mes papiers.
L'international.
J'aime bien, j'aime beaucoup. Je trouve que les paroles, autant les paroles de la Marseillaise sont ignobles, autant les paroles de l'international sont magnifiques. Surtout le deuxième, troisième couplet, nous avons dit non à nos généraux, nos propres balles sont pour nos généraux. Waouh, c'est quand même l'histoire des mecs, des soldats qui se retournent contre leur chef pour ne pas faire la guerre. C'est quand même magnifique.
Ce moment de la journée entre chien et loup.
Ah, j'ai horreur de ça. Je vais bien, je suis plein de projets, plein d'optimisme, plein d'égards pour les autres, j'aime le monde. Et puis vers 5-6 heures, jusqu'à 9 heures du soir, tout se retourne d'une façon très très égocentrique. J'ai tout raté dans tous les domaines de ma vie. Et puis je ne sais pas pourquoi, vers 9h, 9h30, ça passe et je suis de nouveau bien.
C'est un film ?
Bah oui, mais non, parce qu'il paraît que finalement, il y a beaucoup de gens comme moi, que je ne suis pas seul au monde à vivre ça, et ça s'appellerait même le syndrome du nourrisson.
Le Festival de Cannes ?
Je connais pas trop. J'y étais 2 fois dans ma vie par hasard. C'était sympa parce que je rencontrais des copains et qu'on allait boire des verres près de la gare pour parler d'autre chose.
Ouais, c'est vrai que le Festival de Cannes, il est célèbre pour ça. Ouais.
Bah oui, c'est toujours comme ça. Tu y vas pour quelque chose et finalement, c'est autre chose qui s'y passe.
Les addictions.
Ah ça, mais ce serait trop long à expliquer, mais je suis un grand addict, je l'ai été longtemps. Pas mal de choses à dire là-dessus.
Addict un jour, addict toujours.
Addict un jour, addict toujours. Ouais. Les femmes, la drogue, le football.
Les femmes aussi.
Oui, ouais, ça peut. Oui, ouais,
Tant qu'il y a une caméra, quoi.
Non, ça peut. On peut avoir une femme dans la tronche et que ça dure très très longtemps.
Alors c'est donc en connaisseur peut-être que vous réalisez en 2013 « Je suis supporter du Standard », donc redites-nous, pardon, mille pardons, mais c'est quoi le Standard ?
Enfin, voyons.
Riton Liman.
Mais non, mais sans déconner, soyons sérieux. Le Standard de Liège, 16 fois champion de Belgique, 3 fois demi-finaliste de la Coupe UEFA.
Vous allez sortir le
fanion. Couleur
fanion,
rouge
là,
et blanc, fondée en 1998.
Donc vous avez signé un film où vous campez le supporter de foot du Standard. C'est pas un rôle de composition, donc.
Non. Mais enfin, c'était une parabole, une métaphore pour prendre le football comme addiction et pour parler de l'addiction, oui, mais d'une façon un peu ludique et un peu marrante. Mais voilà, c'est l'histoire d'un supporter de foot qui se rend compte que sa vie c'est de la merde et qui essaye de changer, mais qui va se rendre compte que changer c'est pas si facile que ça.
Parce que le supporter de foot, il est pathologique, il aime le foot avec tout ce qui va avec,
ouais.
C'est-à-dire les barquettes de frites, pisser contre le mur juste avant le match, siffler avec les doigts dans la bouche alors qu'il n'y arrive pas d'ailleurs. Et puis, il n'a pas de limite, surtout. Il peut récupérer un t-shirt dans une machine à laver qui est en train de tourner, mais ce n'est pas n'importe quel t-shirt en même temps. Est-ce que c'est un ado dans un corps d'adulte ?
Oui, bah, de toute façon, le supporter, moi, tous mes amis sont au moins supporters de football, quoi. Histoire qu'on ait quelque chose à dire. Voilà, moi, je suis un supporter, le football ne m'intéresse pas tellement, mais je suis supporter du Standard, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, ce qui me parle là-dedans, c'est cette éternelle souffrance, cet éternel espoir.
De quoi vous parlez quand vous parlez de souffrance, d'injustice ?
Bah, on a perdu quand t'es déprimé parce que ton club a perdu.
Oui, mais vous, quand vous gagnez, alors, qu'est-ce qui se passe ?
Bah, t'es content, mais justement, c'est très intéressant parce que la joie que tu ressens quand t'as gagné, mille fois moins importante que la souffrance que tu ressens quand t'as perdu.
Donc en fait, c'est un territoire complètement sadomaso, quoi.
Exactement.
Maso, en tout cas.
Oui, mais à la bonne franquette, à petite échelle. C'est-à-dire que tu peux souffrir un petit peu pour ton club de foot, ça mange pas de pain, quoi. On va pas te mettre en prison pour ça. Alors que la drogue ou le grand banditisme, oui.
Et vous avez besoin de souffrir collectivement. C'est une dramaturgie qui vous intéresse, ça.
Collectivement, non. Mais souffrir tout seul, oui. Parce que moi, quand je regarde le foot, je le regarde tout seul chez moi. Non, j'ai besoin de souffrir.
Vous n'êtes pas partageur ?
Non. D'ailleurs, la drogue non plus. Hein. Tu fumes tout seul, tu prends ta drogue tout seul dans une cave. C'est pas du tout un truc partageur.
En tout cas, votre héros, je ne sais pas si le mot convient, de « je suis supporteur du Standard », c'est un malade.
As-tu déjà perdu des relations affectives à cause de ta consommation d'alcool ?
Non. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remplacer le mot « alcool » par le mot « football » et répéter exactement la même chose.
Est-ce que la consommation de football a déjà entravé tes rapports avec ta famille ?
Oui.
Tes résultats scolaires ou ton travail ont-ils été entravés par ta consommation de football ?
Oui.
As-tu déjà perdu des relations affectives à cause de ta consommation de football ?
Oui, continuez, continuez.
As-tu déjà essayé d'arrêter de consommer du football sans y parvenir ?
Oui.
T'arrives-t-il de consommer du football seul ?
Oui.
Est-ce que l'idée de manquer de football te fait peur ?
Oui.
Penses-tu qu'il est impossible de vivre sans football ?
Oui. 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 J'ai oui partout. Je suis footballique. Je suis standardo-dépendant.
Voilà, très jolie scène au moment où le film, votre film, Riton Liebmann, bascule de manière très drôle. Lorsque votre personnage se retrouve chez les alcooliques anonymes, même combat.
Même combat, ouais.
Mais vous luttez contre les addictions, vous, finalement, ou vous êtes juste un observateur professionnel aujourd'hui ?
Non, je suis un observateur impliqué. Ouais.
Concerné.
Concerné, concerné. Ouais. Bah oui, moi j'étais une vie où je me suis bien défoncé, hein, j'ai pas peur de le dire, et je m'en suis sorti. Petit à petit, parce que justement, encore, préparez vos mouchoirs, c'est dont on parlait tout à l'heure, ça a été une chance extraordinaire, mais en même temps...
Un trauma.
Je l'ai payé, et je me suis défoncé. Je dis pas que c'est pour ça, parce qu'on ne sait jamais pourquoi tu te défonces, ou tu tombes dans la drogue, il y a plusieurs raisons, et les professionnels disent qu'il n'y a pas une raison, mais un terrain glissant. Et certainement que le fait d'avoir joué dans Préparer vos mouchoirs et d'être devenu la vedette du quartier a mis un peu de savon...
D'adrénaline, ouais.
D'adrénaline et de savon sur le parcours glissant. Au lieu de comprendre qu'il fallait bosser, travailler, et que c'était une chance, ok, mais qu'il fallait travailler, moi j'en suis resté juste à la promesse.
Est-ce que vous aimez travailler aujourd'hui ?
Aujourd'hui, oui, j'aime bien. Mais c'est toujours difficile de s'y mettre.
Est-ce que vous réalisez que vous n'avez définitivement plus 13 ans ?
Non. 14. Alors, si j'ai plus 13 ans, j'ai 14.
Je vous le fais à 15, allez.
Ok.
Pour vous, rentrer à la maison, c'est où ?
Riton Liebmann.
Pour moi, rentrer à la maison, c'est où ? Bah, c'est le Thalys entre Paris et Bruxelles.
Ah ouais.
Vous avez il y a une blague juive de mon père qui dit ça. C'est un juif qui est à Budapest, qui veut aller en Israël parce qu'il y a trop d'antisémites. Elle dure une demi-heure hein, quand mon père
vous
me la raconte.
Vous l'avez fait en une minute.
Bah, il fait 10 fois l'aller-retour entre la Hongrie et Israël parce qu'en Israël, il fait 1000 fois trop chaud et en Hongrie, c'est trop antisémite. Alors à la fin, finalement, qu'est-ce que vous préférez, la Hongrie ou Israël ? Ah, je crois que ce que je préfère, c'est le bateau.
Riton Liebman. Bon, votre home, c'est l'humour. Vous pensez être drôle?
Je vais pas le dire moi-même, hein, mais...
Lâchez-vous.
Non.
Vous avez une phrase qui mériterait un développement, mais bon. Pour qu'un mec me fasse rigoler, il faut qu'il soit mort.
Oui, parce que je suis jaloux, parce que si je dis non, c'est parce que voilà, je ne suis pas dupe de... voilà, je vais quand même pas citer un humoriste de mon âge qui aurait beaucoup de succès. Non, mais je suis tellement égocentré que ma propre référence, c'est moi-même.
Vous étouffez pas?
Si.
Vous vous balancez toujours, donc.
Je me balance toujours.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet En sol majeur consacré à Riton Liebman, si vous avez raté Liebman Renégat, mon père juif et pro-palestinien, vous pouvez vous rattraper avec La Vedette du quartier, qu'il présente du 23 au 28 janvier au Métallo à Paris, avant un retour au Théâtre de Poche à Bruxelles le 30 janvier. En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis derrière votre poste, chaque samedi, chaque dimanche à 14h10, temps universel, Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine avec Loubna Abidar. À la semaine prochaine.
Yo, Minka dit ça. I do love this. Yes.